Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour une nouvelle méditation que nous allons aller chercher dans deux petits textes, l'un dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, et nous avons donc ces paroles, livre des Proverbes, où il est dit ceci: « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour. Et puis une deuxième proposition qui nous est faite, c'est dans le livre de Paul aux Philippiens au chapitre 2. Et nous avons tout simplement cette phrase, cette affirmation, où il est dit ceci: faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alors nous allons pouvoir maintenant nous lancer dans cette petite étude biblique, hein, si l'on peut dire. Et j'ai titré ce texte, cette petite réflexion, « Cœur content ou hésitant ?» Et ce sont des mots qui interpellent et qui font réfléchir, hein, parce que toute cette pensée est très fréquente dans nos conversations, dans nos choix, dans toutes sortes d'événements de notre existence au quotidien. Alors, je voudrais simplement affirmer d'abord que la vie n'est pas faite qu'avec des si. Et pourtant, nous savons que ce petit mot, cette conjonction, est très fréquente dans tout ce que nous pouvons échanger avec les autres ou dans nos espérances que nous pouvons avoir si ceci ou si cela. Alors, dénote ou tout simplement traduit l'expression de supposition. Voilà, c'est quelque chose que l'on suppose. Ce sont des hypothèses, éventuellement, qui avancent des hypothèses et autres supputations aléatoires. Mais tout cela, marque quelque part l'incertitude. Si ceci ou si cela, avec des si. Vous connaissez l'adage, on mettrait Paris en bouteille, naturellement. Ça serait peut-être un peu juste, mais enfin, en faisant des efforts, on peut y arriver, je suppose. Souvent, les si de la vie se bousculent dans nos pensées, dans nos têtes. Et lorsque nous faisons des échanges avec autrui, ou lorsque nous manifestons, quelques espoirs, attentes heureuses, alors on met souvent le si un petit peu, on peut le dire, un petit peu partout. Mais le si, c'est peut-être aussi le découragement, c'est-à-dire que l'on met tout de suite une barrière, et peut-être dénoter le découragement, le dépit, les contrariétés et les déceptions aussi, et les espérances irréalisables. Ah si, véritablement, les choses étaient ainsi ou autre pensée. Et c'est peut-être aussi un espoir de fuite. C'est peut-être aussi présenté sous la forme de chance ou de rêve qui nous échappe, ou des opportunités que nous avons ratées. Ah, si j'étais. Et c'est vrai que ça revient très très souvent dans notre manière d'être, de parler, de vivre, et puis aussi d'espérer. Alors vous savez que la Bible est un livre d'espoir, un livre d'espérance, et peut-être que nous, dans notre conversation avec Dieu, que l'on appelle la prière, quelquefois nous mettons des si. Avec nos amis chrétiens, nous pouvons aussi mettre des si, parce que nous voulons manifester quelque espoir. Mais c'est peut-être plus embarrassant lorsque nous faisons avec Dieu, parce que pour Dieu tout est absolument arrêté. Il s'agit tout simplement de nous fixer sur sa volonté, et je crois qu'il n'y a pas de si. Si lui nous donne un conditionnement, en tous les cas, nous n'avons pas à lui en donner, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que de tout temps, les hommes ont fonctionné avec des si. Et j'aimerais donner quelques exemples de l'histoire biblique où nous trouvons des réflexions qui sont marquantes, hein, et qui vont dans un sens ou dans un autre, sur le plan positif ou sur le plan négatif. Souvenons-nous, les six des choix d'Abraham. Vous savez qu'à un moment donné, lorsqu'il est sur la montagne et qu'il doit faire une séparation avec son neveu Lot, hein, c'est lui-même, alors que c'est lui le maître en quelque sorte, Lot n'est que son neveu, et il revenait à Abraham de choisir, il disait « Mais si tu vas à droite, moi j'irai à gauche, et si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. » Il était très magnanime, hein, en tous les cas, Abraham. C'est ce que nous trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 13. Et puis, il y a les six conditionnels de Jacob. Et vous vous souviendrez que Jacob avait dit à un moment donné au torrent à Péniel, à Bethel précisément, je rectifie, il nous est simplement rappelé que Dieu va rentrer en conversation avec Dieu alors qu'il passe par un moment de terreur. Il dira, mais si tu m'accompagnes dans mon voyage que je fais, alors à ce moment-là, si tu me bénis, si tu me donnes le nécessaire, si tu me protèges des dangers, et c'est que véritablement une prière qui n'en finit pas qu'avec des si. Hein. Et ça, c'est un conditionnement en quelque sorte. Et quelquefois, nous pouvons entrer dans ce jeu qui est une forme de marchandage où on met Dieu sous condition, on lui dit, mais voilà, je ferai ceci, je serai cela, dans la mesure où toi, si tu me bénis, si tu fais ceci ou cela, naturellement, je viens de le dire. Il y a les six circonstanciels, on peut les appeler de cette manière, de cette petite fille qui est dans la maison prisonnière ou esclave dans la maison de Naaman. Et là, c'était pour de bonnes intentions, naturellement. Et elle va voir son maître, hein, c'est un général syrien qui est lépreux. Et elle va s'approcher de lui avec, je l'ai dit, avec beaucoup de crainte. Et elle va lui dire, mais si mon maître savait qu'il y a un prophète en Israël. Et là, elle avait une bonne nouvelle à lui annoncer, naturellement. Mais c'était naturellement, s'il savait, s'il connaissait. Et je crois que nous avons une belle illustration dans cette parole de Jésus à la Samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, en effet, qui est, dans une certaine forme, une condition d'approche, si tu connaissais. Ça, on a bien compris, naturellement, le contexte de cette affaire. Il y a les six accusateurs des ennemis de Jésus, que l'on appelait les pharisiens. Et un jour, Jésus va être invité dans la maison de Simon le pharisien. Et là, il y a une femme de mauvaise vie qui est là, qui est en train de défaire ses cheveux, qui est en train de pleurer sur les pieds de Jésus. Et à l'intérieur de lui-même, le pharisien va juger et il va dire, mais si cet homme, en parlant de Jésus naturellement, si cet homme connaissait de quelle espèce est cette femme, il ne s'approcherait pas d'elle, il ne se laisserait pas toucher par elle. Donc là, il y a quelque chose qui marque finalement la mauvaise intention, on pourrait peut-être le dire de cette manière. Et puis, je crois que le champion des champions en la matière des si, et c'est justement ce qui fait toute la difficulté, l'ambiguïté de notre vie, des choix, de tout ce que nous sommes en mesure d'attendre de Dieu, mais qui est toujours retenu, ou qui est toujours limité, qui est toujours restrictif, c'est quand même, on peut dire, les si provocateurs du diable. Et là, il y en a partout. Hein, on le voit dans les paraboles de Jésus, on le voit dans les enseignements divers de la Bible. Donc, le diable est un provocateur avec un simple petit mot, cette petite conjonction, donc, du « si ». Et on l'a entendu souvent, c'est la tentation dans le désert, c'est à Gethsémané, c'est à la croix également, « si tu es le Fils de Dieu ». Voilà. Donc, ça laisse et ça ouvre la porte au doute, à finalement une réflexion négative. « Si tu es le Fils de Dieu ». Alors, si tous les si du monde, instillent le doute et la crainte, et quelquefois la peur, voire peut-être l'effroi, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors, quand ça vient des hommes, c'est toujours très limité, mais quand ça vient de celui qui se cache, celui qui est invisible, et qui là est en train de susurrer, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden, hein, mais est-ce que, si Dieu vous a réellement dit, hein, est-ce que vous êtes sûr de tout cela? Et ça fait vaciller le monde, ça fait vaciller l'humanité, naturellement. Hein, ça, c'est ce que nous savons. Alors, on peut dire que c'est une litanie de si. Hein, on l'emploie certainement là, tous les jours, nous-mêmes, dans notre vie quotidienne, dans nos affaires, dans nos relations les uns avec les autres, alors on peut parler d'une litanie. En quelque sorte, ce mot est partout, et on se le dit. Mais si je tombe malade, voilà, hein, si il m'arrive tel ou tel revers de fortune, si eh bien, je perds mon emploi, si je perds finalement eh bien, là, ma place, ça veut dire que je n'aurai plus de salaire, je n'aurai plus finalement de ressources, et qu'est-ce que je vais devenir? Et ça, c'est un facteur qui va générer quelque part une forme de poison, une forme de chose qui va nous entêter en quelque sorte, et qui va tout mettre sous condition. Tout mettre, eh bien, si là c'est possible, si c'est pas possible, et qu'est-ce que, avec tout ce que cela peut naturellement eh bien, engendrer. Si demain, il y a la guerre, si demain, dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, où il y a des dangers, particulièrement des dangers de grande ampleur sur le plan sanitaire, hein, alors on fait attention, hein, mais c'est bon signe naturellement de faire attention et de prendre des précautions. Et je crois qu'il peut y avoir aussi un aspect positif, hein, à cette restriction, à ce stop en quelque sorte, ou cette attention danger quelque part. Hein. Alors s'il y a la guerre, si. Alors si ce petit mot était l'instrument ou l'outil du diable pour les chrétiens, et pour tous les hommes d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui sont retenus dans les prisons de timidité, ils sont timorés, ils n'osent pas peut-être prendre des initiatives, hein, parce qu'ils pensent de trop en quelque sorte, mais ils ont mis eux-mêmes le premier mot de leur phrase et de leur espoir, et bien ça commence par justement un barrage. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très fréquent. Alors, moi je crois qu'il faut voir, lorsque ça vient de l'adversaire, et vous savez que Dieu parle souvent à ses enfants, mais le diable parle aussi, on n'est pas son père, il n'est pas notre père, hein. Mais il finalement eh bien, s'initie dans notre vie, et sans que nous nous apercevions, eh bien il y a là toutes sortes, comme on l'a dit, de suppositions, d'hypothèques, que voilà, les choses, hein, de supputations, comme je l'ai dit il y a un instant, aléatoires. Donc, ça c'est quelque chose que nous devons prendre en compte, parce qu'il essaie de nous déstabiliser, de nous affaiblir, de nous faire perdre la foi, quelque part. Ou alors, s'il ne peut pas nous la faire perdre, parce que je pense qu'il y a aussi notre part et notre positionnement affirmé, hein, par rapport à Dieu, nous et Dieu, Dieu et nous, mais je crois qu'il peut la diminuer. Il peut nous envahir de doutes, il peut nous infecter à tel point que quelque part nous sommes toujours sur un no man's land et nous ne savons pas de quel côté nous allons tomber, mais c'est nous qui dirigeons les choses quand même. Et je crois que ça c'est important de le savoir pour ne pas nous laisser finalement embarquer dans toutes sortes de choses qui ne sont pas, eh bien là, le produit d'une conviction, d'une confiance totale à ce que Dieu nous dit. Parce qu'il sème la crainte, il sème la peur, et il nous trouble. Hein, on a souvent eu des conversations avec des chrétiens, ou peut-être même avec d'autres, naturellement, mais et tout est eh bien là émaillé de si, ceci, si, cela, on l'a dit, hein, on le répète encore. Alors Jésus nous ramène à quelque chose de fondamental, et c'est important, c'est très simple, hein, mais Jésus nous ramène à son invitation à la foi. Et vous remarquerez que quand Jésus parle, il parle toujours au présent, dans l'Évangile en tous les cas. Hein, c'est pas, mis à part naturellement les prophéties de l'avenir lointain, mais autrement il parle toujours au présent. Et il affirme que voilà, eh bien, c'est à nous de réagir. Et c'est à nous de réagir, non pas avec des restrictions, mais de dire, eh bien Seigneur, puisque tu l'as dit, puisque c'est une chose qui est pour maintenant, ce n'était pas pour hier, ce n'était pas pour les disciples d'hier, ou les hommes qui ont vécu il y a des années avant nous, mais c'est pour maintenant, parce que ta parole est toujours la même, elle ne varie pas, elle est immuable ta parole. Alors on peut comprendre que Jésus, lui, va nous ramener aujourd'hui à la foi. Et il nous dit cette parole extraordinaire, formidable, c'est un peu le cœur de notre méditation. Si vous aviez la foi, Si vous avez, il va nous parler comme nous, nous lui parlons, comme nous, nous avons bardé d'hésitation. Il va dire, mais si vous aviez la foi, il va prendre quelque chose d'assez hardi d'ailleurs, il dira, mais si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, c'est-à-dire ce qui est le plus petit, vous diriez à cette montagne, alors un grain de sénévé à côté d'une montagne, il y a quand même une différence, hein. Ça c'est sûr, hein. Et là, il va nous provoquer quelque part pour nous dire, mais alors à ce moment-là, où il aurait pu nous dire tout simplement, vous avez la foi, ayez la foi, gros comme un grain de sénévé. Mais il va prendre notre façon habituelle, nos vieilles habitudes, il va dire, mais si vous aviez la foi, c'est-à-dire que moi je vous relance la balle, je vous redonne finalement, eh bien, le questionnement, hein, ce trouble que vous avez, si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, c'est-à-dire vraiment un tout petit peu de foi, une disposition de foi toute simple, alors à ce moment-là, vous transporteriez les montagnes, tout simplement. Et c'est ce que Jésus d'ailleurs va confirmer, je voudrais le donner avec un texte biblique, dans Jean chapitre 14 et 1 et 2, il dira ces paroles, « Que votre cœur ne se trouble pas, mais justement, précisément avec cet embarras que vous avez avec les signes que vous mettez à tout bout de champ, en quelque sorte. Hein. Si, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. » Voilà. Si moi j'ai parlé, moi Dieu, si moi Jésus, je vous ai donné le message d'encouragement pour vous donner tout ce qui est nécessaire à votre vie et votre bonheur, hein, on l'a vu, hein, eh bien à ce moment-là, croyez en moi. Et je crois que ça c'est quelque chose, en effet, de tellement essentiel. Alors il dira, bien voilà, moi pour l'avenir éternel, il dira, mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, donc, il va marquer lui-même, si cela n'était pas vrai, mais je ne vous aurais pas menti. Je ne vous aurais pas raconté des histoires. Je ne vous aurais pas trimballé de droite et de gauche. Mais moi, je vous réponds de la manière dont vous pensez. C'est-à-dire que ben, vous avez exactement cette attitude. Et moi, je vous dis, mais je vous assure, hein, qu'il y a un ciel, qu'il y a un paradis, qu'il y a un autre monde, qu'il y a une dimension éternelle, l'immortalité. Et si c'était faux, alors je vous aurais dit, je ne vous aurais rien dit du tout. Hein? Mais si cela est vrai, eh bien, croyez-le tout simplement, tout simplement. Ne laissons pas nos pensées hésitantes. Vous savez, comme les flots de la mer, hein, nous ici on est bien placés pour savoir, avec les marées naturellement, hein, on est surpris parce que quelquefois du jour au lendemain il y a un renversement de marée, hein, la veille c'était à marée haute et puis le lendemain il n'y a plus rien du tout. Ça c'est formidable, hein. Puis après ça reprend son cours, c'est très compliqué, j'ai jamais bien compris le système, mais toujours un jour on a les pieds dans l'eau et un jour on a les pieds au sec. Enfin bon, peu importe. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas laisser nos pensées, cette réflexion est là pour nous provoquer et nous amener, eh bien là, aller un petit peu plus loin dans tout cela. Alors nos pensées, souvent fluctuantes, souvent qui sont là, eh bien batifolées d'une manière ou d'une autre, mais avec nos pensées, il y a la foi aussi qui va être conditionnée. Quand Jacques il nous a dit que quelque part, eh bien, nous sommes exhortés à avoir la foi, mais une foi stable, et de demander à Dieu. Et si nous manquons finalement de sagesse pour lui demander de nous donner la foi, eh bien, il va nous la donner simplement. Alors, si nos appréhensions et autres pressentiments, on peut dire cela, hein, supposés, ou toutes ces, comment pourrait-on le présenter, tous nos ressentis intérieurs, eh bien, nous troublent, eh bien, à ce moment-là, il faut que nous réagissions pour ne pas nous laisser voler le bonheur et la paix que Dieu nous offre. Et c'est pour cela que nous avons ce texte qui est, c'est vrai, très intéressant, et nous l'avons, j'aimerais le relire parce qu'il fait, il rentre à peu près dans ces situations d'aujourd'hui. Il est dit, mais tous les jours du malheureux sont mauvais. Et pourquoi sont-ils malheureux? Pourquoi le malheureux, ses jours sont mauvais? C'est parce qu'il est instable, il est fluctuant, il bouge en fonction des événements extérieurs alors que ça devrait être l'intérieur qui doit le conduire. Mais nous sommes influencés par ce que nous entendons, par ce que nous voyons, par les bruits, par toutes sortes d'événements. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a un manque d'ancrage, il y a un manque de stabilité, on va en parler d'ici un instant. Mais le cœur content. Et c'est Dieu qui nous donne justement, c'est Jésus, par ses paroles, qui nous donne eh bien, d'avoir un cœur content. content, un cœur là qui est stable, en quelque sorte. C'est beaucoup plus facile de vivre dans ce contentement que de vivre dans, à tout vent de choses qui nous environnent. Alors il le dira, tout simplement le proverbe, il dira « mais vaut mieux peu avec la crainte de l'Éternel ». Alors la crainte de l'Éternel, c'est jamais la peur de Dieu. Hein. C'est tout simplement le respect de la personne, de la souveraineté de Dieu, qu'un grand trésor avec le trouble. Si le monde pouvait savoir aujourd'hui la valeur de ses paroles, je pense que, vous savez, ce serait quelque chose. Hein. Il y a un proverbe qui dit ceci, si je m'en souviens, que sur la terre des hommes, si la vie était en rose, eh bien il se ferait moins d'idées noires. Ça, c'est clair. Hein. De toute façon, je pense que c'est une vérité aussi à méditer. Mieux vaut l'herbe pour nourriture où règne l'amour. Et je crois que l'amour, eh bien, cette disposition extraordinaire, ce don de Dieu qu'est l'amour et la foi, l'espérance, mais c'est quelque chose qui peut nous rendre heureux et qui fait que notre cœur peut être réellement content, naturellement. Alors, un cœur content, avec peu, nous venons de le souligner il y a un instant, avec la véritable satisfaction, le contentement ne s'interroge pas avec des si. C'est-à-dire ce que l'on pourrait appeler dans ce mot qu'on emploie peu souvent, et toutes ces sempiternelles, pourquoi, comment, vraiment, où, voilà, on a ça. Hein. Et c'est toujours précédé du pourquoi, du comment, de savoir, de se vouloir savoir à l'avance. Si, mais oui, mais on doit vivre par la foi, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose de formidable de savoir que Dieu nous a mis à cette école. Mais on peut y arriver. Et tous ceux qui sont toujours en balancement, en ballottement, d'une manière ou d'une autre, qui sont toujours dans l'imprécision et qui ne vivent qu'avec des si, mais mes amis, eh bien, écoutez ce message et il peut vous faire du bien pour justement demander, prier. Prier, demander à Dieu qu'il vous donne cette stabilité. Ça, parce que c'est important. Et avec ce que Dieu nous dit, et à nous de le croire. Puisqu'il nous dit suffisamment de choses pour que nous puissions. Et c'est accessible, c'est compréhensible, compréhensible et accessible naturellement. Vous savez que dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, la foi et l'espérance est présentée comme une ancre de l'âme. Ici, nous avons des gros bateaux et c'est quelque chose d'assez monumental quand on voit ces bateaux qui font 300 mètres de long et plus, et qui ont une hauteur de je ne sais pas combien d'étages d'immeubles, on a quelquefois, les ancres sont sorties, hein, quand le bateau est au sec, quand il est dans la cale, eh bien on voit, mais c'est quelque chose qui doit peser des tonnes et des tonnes, remarquez, il faut quand même les accrocher au fond de la mer pour pas qu'ils bougent. Hein. Et l'ancre, c'est ça. Et moi je crois que Dieu a mis dans notre âme l'ancre de l'âme pour que nous soyons fermes, et non pas, s'il y a de la tempête, s'il y a un coup de vent, s'il y a un coup de tabac, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on a mis des ancres au navire, hein, petit et grand d'ailleurs, hein, de toute façon. Alors c'est intéressant. Et je crois que à ce titre, Jésus, en quelque sorte, nous pouvons l'ajouter, n'est-il pas la corde à trois fils? Il y a Dieu, il y a Jésus et puis il y a moi. En quelque sorte, les deux sont plus forts. Moi je suis au milieu, en quelque sorte. Mais la corde à trois fils qui nous rassure, parce que vous savez, une corde, une bonne corde, une vraie corde, hein, pas là, les choses hein, bon marché, mais eh bien, elle nous assure, et une corde, elle nous rassure. Demandez aux alpinistes, à ceux qui grimpent dans les montagnes, et ils ne font pas n'importe quoi, hein, ils ne prennent pas n'importe quel matériel, naturellement. Alors, Jésus nous dit, d'une autre manière, si vous aviez la foi, gros comme on l'a vu il y a un instant, mais il nous dit aussi ceci, si tu crois, tu verras. Ça, c'est encore une autre proposition qui nous est faite. Mais c'est pas quand tu vas voir, tu vas croire. Parce que ça, c'est véritablement l'envers. Ça, c'est la voie sans issue. Tu t'engages dans cette voie, mais c'est une impasse. Tu vas être obligé de revenir en arrière pour reprendre les choses. Et le Seigneur est souvent, eh bien là, obligé de nous reprendre pour nous dire, mais tu as commencé par vouloir boire, pourquoi ? Moi, je te dis, si tu crois, tu verras. Et le plus important de notre vie, eh bien, en suivant, en ayant les yeux fixés sur le sol et le vrai guide, puisque nous parlions d'une corde, et derrière une corde, il y a, devant une corde, il y a toujours celui qui entraîne les autres, eh bien, devant le vrai guide, si nous sommes encordés à lui et avec lui, c'est d'aller au ciel. Parce que c'est pas seulement de traverser cette vie, toutes les vicissitudes, tous les aléas de la vie, les périodes, les moments et les gains ou les pertes, hein, ce qui est heureux et ce qui est malheureux. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il veut atteindre un autre but. Et c'est pour ça, hein, que nous sommes à, comme une forme d'ascension en quelque sorte. C'est pour ça que la corde est nécessaire et c'est pour ça que sur la mer, on met des ancres au bateau pour qu'il puisse être stable. Et c'est vrai qu'il nous est donné cette parole, si nous l'avions peut-être oubliée, mais dans le livre des Actes, au chapitre 4, au verset 12, il nous est dit « n'a pas été donné un autre nom sous le ciel que celui par lequel nous devions être sauvés, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. » Alors ne cherchez pas des ancres à vous accrocher, à vous fixer à autre chose que finalement l'ancre de l'âme, l'ancre de la foi, l'espérance de la foi, parce que ça c'est peine perdue naturellement, hein. Et c'est bien Jésus, hein, qui est à la fois là, bien celui qui va nous donner la stabilité parce que nous sommes bien arrimés, et ou alors à ce moment-là, c'est lui qui va marcher devant nous et il fait office de guide. La bonne et solide corde est faite pour nous tenir. Je tiens à le rappeler, hein, ce sont des particularités finalement techniques, hein, mais elle est faite pour nous tenir. Elle est faite pour nous retenir aussi. Alors ça, c'est aussi des aléas de la vie, hein. Il y a bien des choses où nous pouvons vibrer, où nous pouvons chuter, nous pouvons défaillir. Elle est faite pour nous soutenir, pour que nous restions debout. Elle est faite pour nous sauver. Et non, ça c'est important de le souligner, elle n'est pas faite pour nous emprisonner. Comme quelques-uns pensent que le message de l'évangile ou la foi, eh bien c'est une prison pour nous ligoter. C'est le contraire. Mais pour nous libérer et à jamais, eh bien, nous dire que, alors là, c'est le dernier mot, que si Dieu le veut, mais dans toutes les promesses, quelles qu'elles soient, dans toutes les paroles de Dieu, de bénédiction, de grâce, de délivrance, de secours, de guérison, de l'espérance présente et de l'espérance à venir, c'est si Dieu le veut. Alors je peux vous dire que, parce qu'il a dit, si Dieu le veut, la parole de Dieu nous dit, mais si Dieu le veut, c'est que tout cela, il le veut. Et ça, c'est quand même important. Et non seulement il le veut, mais il le peut. Moi, je ne peux pas. Les hommes ne peuvent pas. Ils peuvent m'aider jusqu'à une certaine façon, mais je ne peux pas aller plus loin. Car nous pouvons dire, si Dieu le veut ou le peut, car sans hésitation, Dieu le peut et il le veut, c'est ce que je viens de dire. Et vous savez, ce petit mot-ci, on va terminer sur cela simplement. Si, c'est une réflexion un petit peu que je me suis faite, hein, ce petit mot introduit une condition, c'est toujours une condition derrière, hein, quelque part comme ça, de quelque chose de semblable, une condition avec poursuite, eh bien là, une suite négative ou positive, où il y a une conséquence. C'est-à-dire que ce n'est jamais pour rien, c'est jamais gratuit. Il y a toujours une conséquence. Je le dis, ça peut être positif, ça peut être négatif, mais il y a toujours une conséquence. Et on pourrait peut-être donner un synonyme à, eh bien, c'est le « si » dont nous avons parlé, hein, de l'être. Hein. Au cas où, au cas où, on peut remplacer, au cas où vous auriez la foi, au cas où, si tu crois, non. Ça ne marche pas tout ça. Hein. Alors c'est au cas où, et ça marque l'incertitude, et je dirais même à la limite, ça peut marquer même l'incrédulité. Ouais. Ça marque même l'incrédulité vis-à-vis de Dieu. Hein. Si par hasard, si par hasard, eh oui, c'est ainsi. Je voudrais simplement eh bien, reprendre le texte que nous avons lu il y a un instant tout à l'heure, au début. Si, non. Eh bien, si, non. Maintenant, je dis, si, lorsqu'il est bien compris, lorsqu'il est bien acquis, eh bien, c'est toujours oui. Oui et amen avec le Seigneur si nous sommes dans sa volonté. Et c'est une promesse certaine, parce que nous avons dans le livre, je crois, d'Osée, le prophète Osée, il est dit, Dieu dit, je les tirerai avec des liens d'humanité, on a parlé de corps tout à l'heure, avec des liens d'humanité, et avec des cordages d'amour. En conséquence, le cœur content est un festin perpétuel. Que voulons-nous dans cette affaire? On pourrait peut-être soupirer dans une prière et de dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Eh oui, hein? Et alors on peut toujours mettre des si, c'est vrai. Mais je pense que quand notre vie est faite que de si, alors à ce moment-là, on ne peut pas progresser. On ne peut pas grandir et il faut absolument résoudre ce problème où il y a cette utilisation de cette petite, comment pourrait-on dire, de ce petit mot de rien du tout qui vient finalement, c'est pas grand-chose, hein, c'est gros comme un grain de levée aussi, hein, mais néanmoins ça peut avoir des conséquences. Hein. Et n'oublions pas de faire toute chose lorsque nous sommes dans la foi sans murmure ni hésitation. Et cessons d'élever des murailles, d'élever des châteaux forts, des forteresses, de si ceci ou si cela, et passons de la survie tourmentée, avec précisément eh bien, ce que nous avons souligné, à l'abondance de la liberté. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Alors maintenant, je ne veux plus entendre personne dire si. Mais que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide dans cette éducation à véritablement mesurer la signification de notre positionnement de foi dans les promesses et dans la personne de Jésus-Christ. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo ou alors peut-être de l'audio. Vous en avez, je crois, près de 800 maintenant sur le site Bible Espoir et la Calomule Trésor. Merci et à bientôt.